Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine des Nations Unies dont voici les titres. Coup de projecteur sur la police de la MONUSCO, quel est son fonctionnement, sa mission serait-elle de trop aux côtés des forces combattantes comme la brigade d'intervention au sein de la MONUSCO. Avec ses policiers et gendarmes, la police MONUSCO attend aussi jouer un grand rôle dans la sécurisation des élections à venir en RDC. Les détails dans un instant. Cantine scolaire, parlons-en dans cette édition avec cette expérience réussie dans un camp déplacé près de Goma au nord Kivu. Un projet du PAM et de World Vision consistant à offrir un repas quotidien à 710 élèves. Une expérience à encourager parce que ça marche, nous dira le directeur de cette école dans Décryptage. Restons toujours à Goma pour parler des îlots de stabilité, projet de la MONUSCO visant à accompagner le gouvernement dans la restauration de l'autorité de l'État dans les zones libérées. Dans ce numéro, le volet prise en charge judiciaire dans les territoires libérés du Nord Kivu avec un invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. La police de la MONUSCO s'est fait inviter lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Le général Pascal Champion a expliqué à la presse les quatre axes d'intervention de la police onusienne, dont le rôle qu'elle attend jouer dans la sécurisation des prochaines élections en République démocratique du Congo. Les détails dans ce condensé de Jean-Pierre Elali Coco.
Selon le général Pascal Champion, le chef de la police de la MONUSCO, 1450 policiers et gendarmes des 25 pays œuvrent sur le territoire congolais. La résolution 2147 du Conseil de sécurité fixe en elle-même les quatre missions fondamentales de la police onusienne. Général Champion.
Première mission importante, contribuer à la protection des populations civiles, avec toutes sortes d'actions différentes. Deuxième action importante, contribuer à la stabilisation de l'État, notamment auprès de la police nationale congolaise. Donc c'est un gros travail de renforcement des capacités sur le terrain de la police congolaise. Le troisième volet, c'est contribuer à la réforme du secteur de sécurité, donc principalement pour nous, policiers MONUSCO, la réforme de votre police. Et le quatrième volet qui me paraît fondamental pour l'action de la police, c'est le travail pour les élections.
À ces quatre domaines d'intervention, il faut ajouter la protection des installations et du personnel de l'ONU. Et concrètement sur le terrain, le général Pascal Champion énumère quelques-unes des actions menées par la police de la MONUSCO.
Il y a des actions de formation au profit de la police nationale congolaise, parfois d'autres institutions. Il y a des actions de patrouille sur le terrain, parfois mixtes avec des services ONU, souvent mixtes avec la police congolaise. Il peut y avoir des services d'ordre mixtes, comme pour le concert Peace One Day à Goma il y a quelques jours. Il y a des activités de supervision et de conseil au profit des policiers et des responsables de la PNC sur le terrain.
Enfin, le mécanisme d'alerte précoce. La police MONUSCO ne travaille pas en vase clos.
J'ai cité le mécanisme d'alerte précoce, puisque beaucoup de choses sont faites au sein de la MONUSCO pour accélérer l'alerte sur des événements graves. Mais pour la partie police MONUSCO, c'est en travail constant avec la police congolaise et d'autres institutions congolaises, comme d'autres parties de la MONUSCO le font avec leurs partenaires congolais.
Par ailleurs, la MONUSCO ne confirme pas des informations faisant état de la résurgence des activités du M23 dans le Nord Kivu. Pour M. Torres, chef du bureau MONUSCO à Goma, les investigations menées par la brigade nord de la MONUSCO sur 5 endroits spécifiques supposés abriter des éléments de l'ex-M23 n'ont pas attesté leur présence. M. Torres, dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Nous avons la semaine dernière notamment reçu des informations sur 5 endroits très spécifiques où des éléments du ex-M23 auraient été opérés. Et dans 2 de ces cas, c'était des groupes assez grands, de 100 personnes dans un cas et de 150 personnes. La Brigade Nord a dépêché plusieurs missions de vérification et de reconnaissance sur ces endroits-là, héliportées, mais à pied aussi, et rien n'a pu être observé. Ce qui m'étonne, c'est que d'un côté, comme le disait le colonel Bass, ce n'est pas impossible qu'il y ait des éléments X-23 qui se soient infiltrés. D'ailleurs, on s'y attendait un peu. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit aucune trace. Et les rapports, donc pour l'instant, notre conclusion, c'est que ce sont des rumeurs.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Offrir un repas chaud à 710 élèves chaque jour, cela se passe à l'EP Lac Vert, dans le camp des déplacés du même nom, à 10 km à l'ouest de la ville de Goma, au Nord Kivu. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la cantine scolaire, un projet du PAM et de World Vision visant à renforcer et à encourager la scolarité des enfants déplacés. Comment s'organise une cantine scolaire dans un camp de déplacés? Jean-Pierre Elali Koko s'est rendu sur place. Il a interrogé Monsieur Boécha Kaombo Simon, directeur de cette école. Je vous propose leur entretien.
Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'EP Lac Vert, ici au camp des déplacés Lac Vert?
Oui.
Et alors, monsieur le directeur, combien d'enfants vous avez ici?
Bon, présentement, nous avons 710 élèves. Mais ceux qui étaient présents aujourd'hui, ils sont au nombre de 638.
Aujourd'hui, vous avez reçu 638 élèves?
Oui.
Alors, on vient parler avec vous des cantines scolaires. C'est l'un des projets du PAM. Comment vous organisez ces repas pour les élèves et comment vous organisez en gros les cantines scolaires ici?
Oui, les cantines scolaires sont bien organisées. Nous avons une magasinière qui chapeaute les autres. Nous avons cette femme et elle travaille. Nous avons une cuisine qui est là-bas. Nous avons un dépôt là où on garde la nourriture. Comme d'habitude, chaque jour, les enfants mangent, sauf si dans les cantines, il n'y a rien. Mais chaque jour, en tout cas, les enfants mangent. Alors, pour les haricots, un enfant mange 30 grammes par jour d'haricots. Bon, pour la farine, c'est 120 grammes. Huile, c'est 10 grammes. Et le sel, c'est 5 grammes. Alors, pendant le jour, après la récréation, à la pause, le matin, les femmes commencent à préparer et c'est à la pause que les enfants prennent la nourriture vers 11h comme ça.
Donc, tous les enfants mangent. Quelles sont les nourritures qui sont pour la plupart préparées pour les enfants ici? Vous avez parlé des haricots, vous avez parlé de la farine de maïs. Et qu'est-ce qu'on prépare encore?
On nous donne encore de l'huile. Si pas ça, le maïs qu'on appelle communément mbungule, souvent, et le riz aussi.
Pour l'instant, par exemple, maintenant il est au-delà de midi, tous les enfants ont mangé?
Aujourd'hui, tous les 638 ont mangé.
Ça, c'est une bonne initiative. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Les difficultés que nous rencontrons, c'est que certains n'ont pas de plan. Les plans, là où ils doivent manger, on doit mettre la nourriture pour que chacun puisse manger sur son plan. Ça, c'est une difficulté d'abord.
Donc, si je comprends bien, les enfants viennent avec les assiettes de chez eux.
Oui, oui.
Et on leur donne de la nourriture et que certains enfants n'ont pas ce plat-là.
C'est exactement. Aussi, la deuxième difficulté, c'est la cuisine. La cuisine est déjà démolie, il faudra qu'on s'arrange. Et d'ailleurs, le comité des parents s'est dit qu'il va tout de suite là aménager la cuisine. Troisième difficulté, c'est que les enfants sont trop nombreux. Vous savez qu'avec ces cantines scolaires, tous les enfants sont intéressés au cours. Et il y a des résultats. Les résultats sont bons parce que après quelques temps, ils mangent. Quand ils mangent, ils continuent avec les cours. Non, les classes terminales viennent encore l'après-midi pour continuer avec les cours parce qu'ils n'ont pas fait.
Que c'est l'avantage qu'on trouve ici, c'est que les enfants sont nourris et ils ont des bons rendements scolaires. C'est ça, oui. Ce que vous voulez dire?
Oui, c'est ça, exactement. Mais aussi, beaucoup sont venus étudier. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas le nombre que nous avons aujourd'hui. À cause de ces cantines scolaires, tous les enfants, les projets du gouvernement, tous les enfants à l'école, et ici aussi, tous les enfants sont venus se faire inscrire. Et en première année, au lieu de 2 classes, nous avons organisé 4 classes.
Qui supporte ces cantines scolaires? Est-ce tout simplement le PAM ou bien vous avez aussi l'appui du gouvernement congolais?
Non, c'est PAM seulement qui supporte ça.
Et le gouvernement fait quoi?
Le gouvernement accompagne seulement PAM.
Comment il l'accompagne? Il fait quoi?
Bon, vous savez que nous sommes du gouvernement tous. Quand nous participons, bon, ils nous donnent la sécurité, de nous amener le vivre ici à l'école. Ce n'est pas facile. Il y a une grande distance de la ville ici à Lac Vert. Alors la sécurité d'amener la nourriture là-bas jusqu'ici, les policiers qui vivent dans ce cas de déplacés aussi, qui gardent la nourriture des enfants. Ici, on n'a jamais connu des vols. Avec tout cela, nous disons que le gouvernement participe.
Ok, donc sur le plan sécuritaire, pour encadrer la nourriture et pour qu'elle atteigne les enfants ici, c'est le gouvernement qui les fait, c'est ça?
Oui.
Vous avez 700 élèves ici et je vois que la population est importante. Est-ce que c'est parmi ces enfants, il y a combien de déplacés? Il y a combien des enfants des familles d'accueil ici?
Oui, ici nous avons 60% des déplacés et les 40% sont des autochtones. Tous les déplacés vivent dans le camp, tandis que les autochtones vivent dans le milieu social.
Est-ce que vous avez un souhait ou bien un conseil ou même une demande à adresser au gouvernement, aux partenaires?
Nous avons un souhait, c'est que vous savez que nous avons beaucoup d'enfants déjà. Alors, si on pouvait nous donner la nourriture conformément aux effectifs réels de l'école, ça pouvait nous arranger. Et augmenter le nombre de kilogrammes pour chaque enfant, ça peut nous arranger. Et bon, pour les haricots, l'enfant prend 30 grammes. La farine, c'est 120 grammes. Or, c'est insuffisant.
C'est insuffisant pour, par exemple, un enfant qui est en 6e année, hein, qui a 12 ans.
Oui, c'est insuffisant.
Donc, il faut augmenter la quantité. Donc là, vous vous adressez au PAM ou bien au gouvernement?
Je m'adresse au PAM.
Qu'on augmente la quantité.
Qu'on augmente la quantité de la nourriture conformément aux effectifs réels de l'école.
Et au gouvernement, qu'est-ce que vous demandez?
Et au gouvernement de nous assurer la sécurité et aussi songer à ces enfants, à la gratuité de l'enseignement. Parce que ces enfants vivent dans le camp, ils n'ont pas de moyens suffisants pour la scolarisation. Ils n'ont rien comme intra, c'est-à-dire qu'ils manquent les cahiers, les ardoises, les stylos. Alors, et au gouvernement de songer à ses enfants qui sont l'avenir de demain.
Monsieur Boresha Kaombo Simon, je vous remercie beaucoup.
Nous ouvrons cette page par cette nouvelle sur la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Avec l'appui du PNUD, il s'est tenu à Kinshasa du 29 au 30 septembre 2014 la 12e réunion du réseau des parlementaires francophones sur le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le thème était les effets contre-productifs des lois pénalisantes dans la transmission des épidémies et la protection des groupes clés. L'organisateur de cette réunion, l'Assemblée parlementaire de la francophonie de la RDC a bénéficié aussi de l'appui du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Cette institution, la PF, joue le rôle de sensibilisation et de groupe de pression pour veiller à ce que les fonds soient alloués à la lutte contre les trois maladies citées. Point sur Ebola, jusqu'au 7 octobre 2014, OCHA rapporte les données ci-après. Nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie à Boende, 71, dont 43 décès. Et parmi ces décès, 8 agents de santé et au 5 octobre, 1121 contacts ont été enregistrés. 305 sont actuellement suivis et 816 autres sont déjà sortis du suivi de 21 jours. Pour rappel, le coordonnateur humanitaire en RDC, M. Soumaré, a alloué plus de 2,5 millions de dollars américains du Fonds commun humanitaire, soit le tiers du budget total de 8,6 millions de dollars présenté par le gouvernement congolais pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Enfin, triste nouvelle au sein de la famille MONUSCO, M. William Elachi Aluiga, chargé de l'unité Outreach, de la logistique et des relations avec les médias de la division de l'information publique à Goma, est décédé mardi 7 octobre 2014 à l'hôpital de la MONUSCO Level 3 à Goma. Charles-Antoine Bambara, directeur de la division publique de l'information et porte-parole intérimaire de la MONUSCO, a annoncé cette triste nouvelle mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
41 greffiers et 42 secrétaires de parquet formés, des audiences foraines ainsi que plusieurs missions d'évaluation. C'est en résumé la contribution de l'unité affaires judiciaires du bureau de la MONUSCO à Goma dans le projet îlot de stabilité, un projet de la MONUSCO visant à aider le gouvernement à restaurer l'autorité de l'État dans les zones libérées du Nord Kivu. Selon M. Abdou Djibo, coordonnateur de cette unité, la justice constitue l'épine dorsale de la stabilité dans des zones post-conflit. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Abdou Djibo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur de la section judiciaire UNESCO Nord Kivu. Nous venons vers vous pour parler un peu des îlots de stabilité. Qu'est-ce qu'on attend par îlots de stabilité?
Pour résumer, les îlots de stabilité, puisque c'est tout un concept, les îlots de stabilité, c'est la volonté de la UNESCO en appui aux autorités congolaises de pouvoir les aider dans des régions qui ont souffert des conflits ou dans d'autres régions où l'autorité de l'État n'est pas totalement présente, de réussir à accompagner les autorités congolaises pour restaurer l'autorité de l'État dans ces zones.
Est-ce qu'on peut avoir des domaines dans lesquels s'appuient ces îlots de stabilité?
C'est multidisciplinaire. Aujourd'hui, presque toutes les sections de la UNESCO sont impliquées. Fondamentalement, celles qui interviennent dans le domaine de l'autorité de l'État. Pour revenir à la section comme la mienne, la justice, c'est une institution importante, c'est l'épine dorsale de l'équilibre dans tout système, dans tout pays. Donc, c'est au cœur même de la souveraineté de l'État, la justice. Donc, normalement, nous devrons avoir un rôle important à jouer. Il y a bien sûr nos sections sœurs comme UNPOL, comme Civil Affairs, chacun en ce qui concerne son domaine d'expertise qui peut apporter un appui important pour que l'autorité de l'État soit restaurée.
Parlons maintenant de votre section. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain et quels sont les territoires du Nord Kivu qui sont concernés jusque-là par ce projet?
En ce qui concerne ma section, je dois citer les territoires concernés, Rutshuru, Masisi, Walikale. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que notre domaine d'intervention, c'est les zones où il y a des tribunaux de paix. Au Congo, la loi sur l'organisation judiciaire dit que dans chaque territoire, il est institué un tribunal de paix. Il y a à peu près un an, des tribunaux de paix ont été installés ici au Congo. Donc, nous avons voulu accompagner ces tribunaux de paix. Et quelle a été la nature de notre appui? Dans un premier temps, avant même que l'idée de l'eau de stabilité ne devienne un concept, notre section, avec d'autres sections, était sur le terrain pour pouvoir faire un premier exercice d'évaluation. Parce que pour pouvoir agir, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. On est allé sur le terrain, on a fait l'évaluation du fonctionnement du système judiciaire. Mais avant ça, nous avons aussi accompagné l'installation de ces juridictions. Par exemple, nous avons participé à toutes les réunions de concertation avec les autres partenaires comme le PNUD, qui a par exemple permis la construction d'un tribunal de paix au niveau de Masisi. Donc nous avons participé à ces concertations pour installer ces tribunaux. Ensuite, nous avons fait l'évaluation. Une fois que nous avions fait l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que c'est vrai que les défis sont énormes, mais encore une fois, il faut adopter la philosophie des petits pas. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, de façon modeste, on peut apporter comme contribution? Et c'est ainsi que, avec d'autres partenaires, on a suggéré l'idée à d'autres partenaires qui nous ont accompagnés. On a dit, premièrement, les greffiers, les secrétaires qui sont déployés, à plus de 90%, ils n'ont pas une formation dans le domaine de la justice. Donc on a dit, première chose, développer un projet pour pouvoir les former, leur donner un minimum pour qu'ils puissent bien tenir les registres, pour qu'ils puissent monter aux audiences, pour qu'ils puissent faire des efforts pour pouvoir accompagner l'œuvre de justice. Donc dans ce cadre, on a réussi à former 41 greffiers et 42 secrétaires des parquets. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons une mission sur le terrain où notre spécialiste en matière de greffe et de secrétariat est actuellement à Masisi pour aller faire l'évaluation de qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux qu'on a formés. Est-ce qu'ils appliquent correctement les préceptes qu'on leur a enseignés? Donc c'est pour faire un monitoring sur le terrain, voir s'il y a des choses à redresser. Donc actuellement, comme je vous le dis, il est sur le terrain au niveau de Masisi, il va faire ce travail. Et nous avons prévu de faire ce travail de façon continue. Parce qu'encore une fois, pour quelqu'un qui arrive dans le monde judiciaire, qui n'a pas fait l'école des greffes et l'école des secrétariats, il faut un accompagnement de tous les jours. Il est bien dommage qu'au niveau de notre section, on n'ait pas assez de personnel, sinon l'idéal aurait été que l'on puisse déployer de façon permanente notre personnel sur le terrain pour qu'ils suivent au quotidien. Mais avec peu de ressources, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes.
La population du territoire de Nirangongo, pas loin d'ici, c'est presque à une vingtaine de kilomètres, et elle dit que n'est pas prise en compte dans les projets de stabilité. Donc, comment vous répondez à cela?
Ok, on répond que dans un contexte où il y a la rareté des ressources, il faut forcément opérer des choix. Pendant longtemps, Masisi, Walikale, Rutshuru, il n'y avait pas de tribunaux de paix. Donc je pense que c'est une avancée significative et il faut remercier les autorités congolaises d'avoir nommé les magistrats et le personnel dans ces ressorts. Je veux dire que c'est progressivement qu'on va couvrir le territoire. Mais en attendant, il y a une formule que nous essayons de mettre en œuvre, c'est celle des audiences foraines. Donc s'il y a des cas qui intéressent ce territoire-là, avec l'ensemble de nos partenaires, parce qu'on a créé une plateforme qui s'appelle le cadre de concertation pour la paix à la justice. Dans ce cadre-là, nous recevons les demandes des différentes juridictions et nous nous réunissons ensemble pour voir chacun dans son domaine qu'est-ce qu'il peut apporter. Parce que si on ne réussit pas à fédérer nos énergies pour pouvoir accompagner, ça va être souvent des duplications des efforts et on n'atteint pas l'objectif souhaité. Donc en attendant que la République démocratique du Congo trouve suffisamment de ressources, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est sur la durée que ça va se faire, en attendant on essaie d'accompagner par les audiences foraines avec l'appui de l'ensemble des partenaires qui évoluent dans le domaine de la justice, parce qu'on n'évolue pas seul, encore une fois, dans ce domaine.
Monsieur Abdou, Radio Kapi vous remercie de l'effort que vous faites pour accompagner l'île de stabilité dans les domaines judiciaires et doter notre pays d'une justice vraiment digne de ce pays. Je vous remercie.
Et pour la nouvelle des provinces, plus de 4500 personnes sont sans abri dans le territoire de Bukama, district du Haut-Lomami, à la suite d'un orage violent survenu dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier. L'information nous est fournie par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA dans son dernier bulletin d'information publié mercredi. Pour OCHA, ces personnes vivent dans des conditions déplorables et l'information est confirmée par les autorités locales qui appellent à l'assistance. Les détails avec Jean Gandou.
Le quartier le plus touché est Kisangawa-Bioni. Il est situé non loin du fleuve Congo et est en grande partie marécageux. Ce sinistre est arrivé lors de la tombée de la première pluie. D'après l'administrateur du territoire en charge des questions politiques et administratives, cette pluie était accompagnée d'un vent violent. Les maisons construites en briques adobe se sont écroulées et celles construites en briques huit ont perdu leur toiture. Les statistiques font état de plus de 700 maisons détruites. Pour l'heure, les personnes sinistrées sont soit dans les familles d'accueil, soit encore qu'elles passent la nuit à la belle étoile, exposée aux intempéries. L'autorité territoriale redoute que la situation ne se dégrade davantage avec la tombée d'une nouvelle pluie. Au départ, ces personnes vivent dans des conditions déplorables. Plusieurs fois, il a été demandé aux habitants de ce quartier de quitter ce lieu, mais ils n'ont jamais obtempéré. Ce sinistre n'est pas le premier du genre dont sont victimes les habitants de Kisangawa-Bioni. Chaque fois que l'eau du fleuve est sortie de son lit, elle a toujours inondé ce quartier. Les autorités locales plaident donc pour une assistance en faveur de ce sinistré dépourvu des tout. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Marc Bossoigle pour l'agence France Presse. Colonel, la situation sécuritaire dans la province orientale, précisément dans les baies où elle est, comment la MONUSCO estime-t-elle cette situation? Est-ce qu'il y a amélioration ou détérioration? D'autant plus que depuis quelques mois, il a été question d'une attaque des éléments des LRA contre les FRDC. Il semblerait qu'il y aurait regroupement de ces éléments qui proviendraient de la République centrafricaine. Votre réaction?
Je vous propose la réponse du colonel Félix Baz, porte-parole militaire de la MONUSCO, à la question de notre consoeur de l'AFP.
Il faut clairement préciser que la LRA est aujourd'hui éclatée en petits groupes dans plusieurs pays, notamment la République centrafricaine, un peu au Sud-Soudan, mais aussi en province orientale, en République démocratique du Congo. Effectivement, vous avez raison de signaler qu'il y a eu une recrudescence des activités de la LRA, parce que pendant un certain temps, nous avions observé que ce groupe était dormant, mais depuis un certain temps, ce groupe se signale surtout par des kidnappings le long de certains axes routiers dans le Haut et le Bas-Ouélé, notamment entre Bangadi et Guilima, dans cette région de la province orientale. Mais vous avez aussi raison de signaler que les FRDC ne sont pas restés inactifs et la MONUSCO non plus, dans la mesure où nous avons, pour prendre en compte cette nouvelle menace sécuritaire que constitue la LRA par la récurrence des activités négatives qui sont conduites dans cette région-là, nous avons pris des mesures idoines en déployant un poste opérationnel qui permette de prendre en compte cette menace sécuritaire et qui puisse venir en appui aux activités menées par les FRDC pour neutraliser ce groupe armé.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Donc moi, je m'appelle Marie Rocheteau, je viens du Cap-Vert, je suis célibataire avec une fille et je travaille pour la MONUSCO depuis le mois d'octobre de l'année 2011. Je suis responsable de l'équipe de conduite et discipline. Je suis formée en droit par l'Université classique de Lisbonne. Avant de venir ici au Congo, j'étais au Cap-Vert où j'ai exercé les fonctions de magistrate du tribunal de première instance à Praia, à l'île de Santiago. Donc, de 1995 jusqu'à 2002. En 2002, je suis partie au Timor-Oriental pour travailler pour le tribunal pour les crimes graves, les crimes contre l'humanité. Ça a été un tribunal pour tous les crimes qui ont été commis en 1999 au Timor-Oriental. J'étais au niveau de la défense publique. Après le Timor, je suis partie en Haïti en 2005. J'étais au niveau de appui au judiciaire au sein de la section justice de la MINUSTA. Après la MINUSTA, je suis partie en Côte d'Ivoire comme responsable de l'équipe de conduite et discipline à l'ONUSI dans la mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Et en 2011, je suis venue ici à Goma comme la responsable de l'équipe de conduite et discipline au Nord Kivu. Pas, et rien de spécial, en fait. Moi, je fais une vie normale, comme n'importe quel citoyen. Nous avons quand même le sens de professionnalisme, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je me réveille le matin, je prépare mon café d'abord. C'est la première chose que je fais. Et après, je me prépare pour venir au bureau. Le bureau de conduite et discipline au sein de la MONUSCO, il y a quand même quelques activités très importantes. Ça, on travaille surtout dans la formation des staffs, des fonctionnaires des Nations Unies. Ça veut dire qu'on fait des formations à l'interne et à l'externe. On fait beaucoup de formations d'induction. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a un fonctionnaire engagé au sein de la mission, il doit recevoir d'abord une formation d'induction. Ça veut dire la première formation. Après, il y aura aussi de formation de mise à jour, de manière que les collègues sachent leurs devoirs et leurs obligations autant que fonctionnaires internationaux. Même si nous sommes localement recrutés ou même internationalement recrutés, nous sommes toujours des fonctionnaires internationaux. Ça veut dire que n'importe quel fonctionnaire des Nations Unies qui est ici au Congo, demain peut être appelé ailleurs pour aller servir les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, il faut qu'il soit quand même une personne avec le sens de professionnalisme, de compétence et d'intégrité très élevé. Parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires normaux. Ils sont des fonctionnaires spéciaux qui travaillent pour une organisation spéciale, telle que les Nations Unies. Donc, mais s'il y a aussi des plaintes ou des allégations de mauvaise conduite commises par les agents de la MONUSCO, notre bureau, c'est la porte d'entrée de ces plaintes. Donc, ça veut dire que nous recevons aussi les plaintes et après, l'analyse de la plainte, on peut envoyer la plainte au service d'enquête. Donc, on fait la gestion du dossier. Nous faisons aussi des campagnes de sensibilisation et de formation à l'intention de la population locale, de manière que la population locale sache que le fonctionnaire des Nations Unies doit se comporter avec le plus haut responsabilité, probité et professionnalisme, mais aussi la population locale doit savoir qu'il y a une équipe au sein de la mission. Donc ça veut dire que le staff, les fonctionnaires de la MONUSCO sont quand même encadrés. Donc ça veut dire que s'il y a une plainte qui implique un fonctionnaire des Nations Unies, la population locale, par les biais de ces formations, de ces campagnes de sensibilisation, ils vont adresser ces plaintes à nous, à l'équipe de conduite et discipline. En termes de temps libre, moi j'aime beaucoup rester à la maison. Donc ça veut dire que je fais ma cuisine moi-même, je fais mon café, je regarde la télé, je lis et je fais un peu de sport. Donc c'est ça plus ou moins que je fais. Oui, après la MONUSCO, je pense rentrer chez moi à n'importe quel moment, au pays, au Cap-Vert. Moi je suis patriote, je suis nationaliste. Donc je suis de la génération quand même qui a lutté pour l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, même si j'étais petite. Donc pour vous montrer que nous avons quand même, s'il y a de la chance peut-être d'aller dans une autre mission, je n'exclus pas cette possibilité parce que mais s'il faut rentrer à la base, chez moi, au pays, au Cap-Vert, je rentre au Cap-Vert.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Dans la perspective de notre prochaine émission des journées à suivre, la semaine qui commence le 15 octobre, c'est la journée internationale des femmes rurales. Le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et le 17 octobre, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Voilà tout pour les rendez-vous de la semaine et c'est par là que nous bouclons cette émission présentée par Lydie Bettina sous la supervision de Julien Niamouini et la coordination de Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga. L'émission a été mise en ligne par Sylvain Baogwere. Vous pouvez la réécouter sur le www.radioocapi.net. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain.